Renault Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue en direct de ce deuxième jour au Forum Rénaudaise en direct de la Porte de Versailles sur nos antennes Radio Immo, Radio Territoria et sur le YouTube Bâti Radio. On est ravis de vous faire vivre cet événement incontournable, cette seconde édition. Vous le savez, le sujet central de ce forum, c'est la rénovation énergétique, cet enjeu colossal qui mobilise à la fois les artisans, les professionnels de l'immobilier et les acteurs du financement. Justement, c'est l'objet de cette table ronde qui ouvre le bal de ce deuxième jour. Comment mieux articuler leurs actions, les actions de ces acteurs, quels leviers pour accélérer aussi les rénovations dans les logements, pour massifier et notamment dans les copropriétés. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir trois acteurs clés du terrain. Olivier Principal, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le président de la FNAIM Grand Paris, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Vous faites également partie du bureau exécutif de la Fédération Nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le rôle de la FNAIM dans l'écosystème?
Bien sûr, la FNAIM, c'est un syndicat professionnel, un syndicat patronal qui rassemble les entreprises de l'immobilier. Donc on couvre les métiers de la gestion de la copropriété pour les syndics, les administrateurs de biens qui représentent les bailleurs confrontés à la rénovation, mais aussi les locataires qui ont des besoins d'amélioration énergétique. Et on représente aussi les agents immobiliers qui sont au cœur de la transaction et de l'échange de biens entre un vendeur et un acheteur. Donc voilà, on a une couverture nationale. On représente près de 10 000 agents immobilière, ce qui représente quand même beaucoup de collaborateurs, ouais, et beaucoup d'interlocuteurs. Donc on est le premier syndicat en nombre, le premier syndicat patronal de l'immobilier.
Et donc vous êtes président de la Chambre du Grand Paris, puisqu'il y a des chambres partout en France.
Oui, effectivement, j'ai la chance de représenter les adhérents du Grand Paris, quasiment l'Île-de-France, où on a aussi 1000 entreprises sur l'Île-de-France. Donc on pourrait rien que sur le Grand Paris être le premier réseau immobilier de France, mais la FNAIM, c'est un grand réseau national et c'est probablement le premier réseau européen.
Jean-Claude Roquerel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des métiers de la couverture et plomberie chauffage à la CAPEB. Alors la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Pareil, est-ce que vous pouvez nous présenter ce syndicat aussi, ce gros syndicat?
Oh oui, ce gros syndicat, puisque c'est aussi le plus gros en nombre d'adhérents au niveau du secteur du bâtiment. Donc on est 62 000 adhérents et on représente 600 000 entreprises du bâtiment en France.
Voilà, et vous accompagnez donc ces artisans, ces petits artisans.
On accompagne ces artisans, on a une antenne, on a une confédération, donc on a 93 départements, 12 régions et un national, donc avec 28 membres administrateurs au niveau national.
Et Christophe Boulduire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Alice, directeur associé en charge du développement commercial pour Synergiec. Alors Synergiec, c'est un intermédiaire en opération de banque, ouais, et en service de paiement spécialisé dans le financement de la rénovation énergétique. Concrètement, votre rôle, c'est quoi?
Oula, on est plutôt chef d'orchestre, mais c'est vrai que le titre, il est très long. On est assistance à maîtrise d'ouvrage financier, pour être encore plus, ouais, court dans le titre. L'idée, c'est que chez Synergiec, on accompagne bien sûr les métiers de la rénovation, mais surtout nos amis syndics et aussi artisans, pour que, grosso modo, la rénovation ne soit plus un blocage pour les prises de décision. En fin de compte, quand on est face à des prises de décision importantes en Assemblée Générale ou lors de réunions, ce qui embête les copropriétaires avant tout, c'est la finance.
Bien sûr.
Ben nous, on essaye d'être un peu les chefs d'orchestre un petit peu de tout ceci, expliquer qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, et peut-être encore moins que demain, c'est maintenant qu'il faut agir, parce qu'il y a des intérêts forts, malgré le marasme politique que l'on connaît, il y a quand même des décisions que l'on peut prendre, parce qu'on est accompagné, parce qu'il y a des moyens, parce que derrière, il y a des subventions. Et nous, notre métier, c'est de mettre en exergue et mettre en avant tout ce qui existe, plutôt que tout ce qui n'existe pas. Donc on est plutôt dans la positive attitude. Alors je ne vais pas reprendre une chanson qui d'ailleurs n'irait pas très bien, mais en l'occurrence ça nous permet fortement d'accompagner avec le sourire malgré toujours les intempéries intellectuelles qui peuvent planer sur nous.
C'est vrai que vous avez un petit air de ressemblance avec Laurie.
Oui,
en tout cas merci pour cette belle introduction, parce que voilà, vous avez planté un petit peu le décor et justement on va faire un état des lieux. On va commencer avec vous Olivier Principal, peut-être un petit mot sur votre rôle dans cette bataille de la rénovation énergétique. Comment les syndics et les professionnels de l'immobilier abordent-ils ce défi ?
Alors, en fait, pour nous, c'est juste une continuité, une accélération. En fait, les syndics de copropriété ont toujours accompagné les copropriétaires et les copropriétés dans l'entretien et la valorisation de leur patrimoine. On n'a pas attendu la loi climat et résilience pour initier des sujets. Quand on est syndic de copropriété, on accompagne les copropriétaires dans une rénovation de toiture, dans un ravalement d'immeubles, dans une isolation thermique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, la politique publique d'accompagnement et d'accélération de la rénovation énergétique a créé tout un tas, toute une économie nouvelle avec une accélération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des assistants à maîtrise d'ouvrage qui nous aident pour le financement, parce que c'est devenu tellement compliqué qu'il nous faut des spécialistes dans chacun des métiers. Donc nous, le syndic de copropriété, c'est toujours le chef d'orchestre de la rénovation énergétique. Nous, on prend la réglementation, on la présente aux copropriétaires, ouais. On facilite l'accès à cette réglementation et on facilite l'accès aux aides et aux subventions pour pouvoir accompagner et mener à bien un projet. Ça veut dire que dans tout ce process de décision, il faut déjà avoir des gens qui ont un besoin, il faut avoir des copropriétaires qui ont une envie.
Et puis il faut faire de la pédagogie aussi, parce que la plupart des copropriétaires n'y connaissent rien, il faut le dire. Moi, je ne connais rien, par exemple, en travaux.
Et en l'occurrence, c'est normal. On est là, nous, en tant que professionnels, pour pouvoir avoir une traduction pratique. Et je vous avouerai que cette traduction, elle se fait dans le temps, parce que la copropriété, c'est un temps long, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, on doit faciliter le parcours d'accès à cette rénovation énergétique. Après, ceux qui décident, ce sont les copropriétaires. Aujourd'hui, on a toujours une difficulté avec un pouvoir politique qui veut imposer des choses, et on sait bien qu'en France, imposer, ça ne fonctionne pas. Il faut inciter, en tout cas c'est le message que nous, FNAIM, on propose. On veut absolument supprimer les interdictions de location qui gênent les propriétaires bailleurs, qui empêchent l'accès au logement par les locataires. On veut de la fluidité, on veut de l'incitation, et en réalité c'est tout le rôle des professionnels, c'est d'arriver à faire en sorte de faire adhérer un maximum de gens à un projet en leur facilitant les conditions d'accès, et c'est tout le rôle que les professionnels de la FNAIM et les professionnels de l'immobilier en général exercent pour arriver à réussir l'enjeu de la rénovation énergétique.
Alors je reviens sur ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que la rénovation énergétique, on en parle de plus en plus ces deux, trois dernières années, notamment depuis la loi climat et résilience, mais vous dites que ça a toujours existé. Donc les copropriétés, elles sont pas plus préparées à franchir le cap aujourd'hui, elles l'ont toujours été.
Elles sont aujourd'hui plus incitées à faire parce qu'on a créé des aides et des subventions pour améliorer énergétiquement les immeubles. Mais vous savez, une copropriété qui a fait un ravalement il y a 5 ans avant la loi climat et résilience, qui a déjà fait une partie d'isolation ou rénové une couverture, elle va pas, sous prétexte qu'il y a une loi climat et résilience et des aides et subventions, casser ce qu'elle a réalisé il y a peu de temps. Donc aujourd'hui, on le voit bien dans les dispositifs d'aide, c'est qu'on favorise les gens qui n'ont quasiment rien fait dans leur patrimoine, parce qu'on va valoriser l'accompagnement et les subventions quand il y a des gros gains énergétiques à faire. C'est-à-dire que si vous avez toujours entretenu correctement votre patrimoine, vous n'êtes pas nécessairement visé par le maximum d'aide. Et en réalité, on va parler de la loi aux copropriétaires, on va parler des possibilités, mais il y en a aussi pour lesquels beaucoup, il n'y a pas de travaux à réaliser, pas d'entretien, et c'est logique. En réalité, la rénovation s'est toujours réalisée au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, elle s'accélère pour la partie énergétique, et il faut juste trouver le bon chemin pour accompagner les copropriétaires dans la démarche.
Alors Jean-Claude Rancruel, vous qui représentez les artisans, ceux qui concrètement réalisent les travaux, comment vos adhérents perçoivent-ils ? Alors déjà, est-ce qu'il y a une montée en puissance de cette rénovation énergétique ? Est-ce que vous confirmez les propos d'Olivier Principal, et comment les adhérents justement perçoivent-ils cette montée en puissance ces dernières années de cette rénovation énergétique ?
Alors, comme disait Olivier, s'il a été à la CAPEM, nous les artisans, on a toujours fait de la rénovation énergétique.
Oui.
Malheureusement aujourd'hui, le constat c'est que cette rénovation énergétique peut nous échapper, nous les artisans, et peut être accaparée à des acteurs plus commerciaux que, je dirais, techniques. Et ça c'est un peu dramatique. Donc cette montée en puissance, montée en puissance, je dirais que l'actualité du moment, là, il n'y a pas de montée en puissance de rénovation énergétique. Il y a un peu, je dirais, un retard à l'allumage. Bon, on sait très bien ce que est devenu MaPrimeRénov', ok. On a arrêté, on a dit on va rouvrir au mois de septembre, le 30 septembre. Je crois qu'au bout d'une heure...
Ça a bugué.
Bon.
Ils n'étaient pas prêts.
Donc, ils n'étaient pas prêts. Donc, pourtant, on a soi-disant arrêté pour refroidir le moteur, mais le moteur était encore bien, bien, bien chaud avec le nombre de dossiers qui demandaient qu'à être déposés. Donc, effectivement, nous, on demande que, justement, que la rénovation énergétique est nécessaire pour le pays, pour la décarbonation, on le dit, et on dit, longtemps on dit, là, et ça a été dit au niveau européen, que la rénovation énergétique au niveau Europe, non pas qu'en France, ne se fera qu'avec les petites entreprises ou ne se fera pas. Donc effectivement, nous, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que les petites entreprises sont un peu mises à l'écart avec les difficultés qu'on sait avec l'éco-conditionnalité RGE, la difficulté pour certaines d'entre nous d'être RGE pour faire les travaux, etc. Mais je dirais, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une stabilité des aides pour continuer à faire ces travaux qu'on a toujours fait.
Et d'ailleurs, pour en revenir à cette certification RGE, donc reconnue garant de l'environnement, qui est nécessaire quand un ménage veut obtenir des aides, il faut qu'il fasse appel à un artisan RGE. On est d'accord, cette certification, elle coûte un certain prix pour l'artisan, en plus de la paperasse. Hein. Mais du coup, ça se répercute sur ses honoraires.
Oui, et pour les petits faiseurs, ça peut être un gros frein. Et d'ailleurs, nous, à la CAPEB, on revendique un autre parcours, enfin un autre moyen d'être RGE. C'est RGE, ce qu'on appelait la validation par les acquis. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons dit ce terme, c'est à l'époque un ministre qui a dit, c'est en l'occurrence Christophe Béchu, quand on lui a expliqué ce qu'on voulait, oui, un genre du consuel de rénovation avec, un contrôle systématique sur les premiers chantiers et pour dire, oui, vous avez bien fait, c'est bien réalisé. Tout a été fait dans les normes. On voudrait que justement ces entreprises peuvent devenir RGE sans passer par la case qualification, montage du dossier, enfin en tout cas un dossier minimisé, etc. Voilà. On a besoin de mettre avec l'éco-conditionnalité, c'est pas facile à dire, pour que nos clients touchent les aides. Justement, on a besoin d'un autre parcours, d'un autre moyen pour qualifier ces entreprises qui sont compétentes. Je rappelle, on a toujours fait de la rénovation énergétique. Les plombiers, on a toujours fait, la rénovation énergétique. Les plâtriers, les plaquistes ont toujours fait, etc. Tous les métiers ont toujours fait de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on se voit malheureusement légèrement, je dirais même pas mal, éloigné de ce chantier, parce que est positionné avant tout les entreprises commerciales, et ça on le déplore.
Et c'est vrai que c'est important de le préciser, les artisans qui ne sont pas RGE évidemment sont compétents également, attention, et il y a des artisans RGE qui le sont peut-être aussi un petit peu moins.
Oui, et sans parler bien entendu de toutes les fraudes qu'il y a eu à la rénovation énergétique, mais je ne mettrai pas sur la table, ça c'est dramatique que l'argent public a étalé sur des organisations mafieuses, il faut le dire.
Alors, Christophe, c'est vrai que donc vous accompagnez, on l'a compris, les professionnels également dans le montage financier des projets de rénovation énergétique. Concrètement, si vous devez faire un état des lieux en octobre 2025, quel est-il ?
Alors, on peut dire que depuis la loi climat et résilience, il y a vraiment une accélération, je dirais, depuis deux ans. Deux ans, et c'était bien parce qu'il y avait toutes les aides incitatives qui permettent d'avancer, et ça c'est génial. Donc on a envie de lancer la mécanique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état politique du pays est un frein. Il faut se dire les choses. Bon, on l'entend dire parce que derrière les gens.
Vous voulez dire l'instabilité politique ?
L'instabilité politique aujourd'hui crée un frein parce que derrière les gens ont peur, et on voit bien dans les copropriétés qu'il y a des prises de décision sur des assemblées générales pour lancer les travaux qui étaient aux portes de l'assemblée générale et qui aujourd'hui sont reculées. D'accord. Parce qu'ils se disent, mais comment je vais être mangé ? Alors, nous, on est là plutôt sur le plan pédagogique pour dire n'ayez pas d'inquiétude. Alors, nous, on a la chance chez Synergiec d'avoir 25 agences France entière. On a accompagné plus de 300 copropriétés en moins de deux ans, ce qui fait de nous un acteur important. Mais surtout, ça nous permet de dire lancez votre projet, n'attendez pas. Pourquoi ? Parce que les aides, elles sont présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en remet pas en cause les aides. Et comme dit monsieur très justement, il ne faut pas qu'il y ait un échiquier qui modifie les règles du jeu tous les quatre matins. Parce qu'il y a une stabilité.
C'est ce qui se passe pourtant.
Alors oui, mais pas sur la rénovation énergétique, pas sur les copropriétés.
Non, pas sur les copropriétés.
Mais sur les copropriétés, aujourd'hui, c'est un vrai chantier qui a été lancé. Et c'est l'un des rares endroits où il y a une stabilité. Sauf que les gens, ils entendent tout à la radio. Alors c'est vrai que certaines radios, pas la vôtre heureusement, parce qu'elle est très positive, mais d'autres radios, quand vous l'allumez, vous avez envie de vous pendre. Donc vous attendez. Donc je vais pas. Je prends plus la voiture, je ne construis plus, je ne consomme plus. Ouais. Sauf que le problème, le marasme introduit par ces radios, bloque le système économique. Oui. Avant de parler politique, c'est tout ce que l'on peut porter qui bloque le système.
Parce qu'en fait, ça effraie les copropriétaires.
Exactement.
C'est ça que vous
dites. Dans les prises de décision. Et donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on avait une mécanique qui était très bien lancée. Aujourd'hui, avec les obligations réglementaires du PPT qui imposaient que le
donc,
PPT...
Donc, prends plus l'annuel de travaux.
Oui, pardon, vous avez raison. Il faut à tout prix arrêter les abréviations qui sont connues par nous et pas par tout le monde. Mais au travers du plan pluriannuel de travaux, toutes les copropriétés étaient impactées au 1er janvier 2025. 100% des copropriétés devraient avoir fait le plan pluriannuel de travaux. C'est le projet. Du coup, il y a un effet d'accélération. Donc je vois au diagnostic, et ce que dit Olivier très justement, il y a deux types de copropriétés. Il y a ceux qui se sont accompagnés pendant 30 ans à faire les travaux quand il fallait les faire. Donc ça veut dire qu'ils sortent un petit peu du prisme des aides parce qu'ils ont une copropriété qui était déjà engagée dans la rénovation. Et puis ceux, moi je le vois, hein, sur des copropriétés qui ont 60 ans, où on est encore sur le crépit d'il y a 60 ans. Bon, et souvent c'est habité par des gens qui étaient à l'origine. Je ne plaisante pas parce qu'on a des gens qui sont chez eux. Et donc derrière, il faut les emmener automatiquement à rénover, à rafraîchir leur bâtiment et à repartir sur trois éléments. D'abord, c'est le gain sur l'étiquette énergétique. Donc derrière, moi je le fais régulièrement en Assemblée Générale, quand vous avez des travaux qui se financent avec du prêt à taux zéro et que la mensualité est plus faible que le gain énergétique de la facture, c'est-à-dire grosso modo vous avez 60 euros de mensualité, 70 euros, et vous gagnez 100 euros sur votre facture énergétique, déjà ça impacte fortement la réflexion. Deuxième point, vous avez du confort automatiquement au travers de votre appartement. Et puis j'appellerai la valeur brune ou la valeur verte, suivant comment vous se positionnez. C'est-à-dire que derrière, si on a une valorisation du patrimoine, je fais des travaux, je valorise mon patrimoine, mais j'ai plutôt tendance à dire, si je ne fais pas de travaux, dans une rue où j'ai 5 bâtiments qu'ils ont fait, je perds de la valeur. Ne rien faire, c'est perdre de la valeur. Et donc aujourd'hui, la rénovation, elle doit être portée sur trois champs. L'amélioration de la facture, le confort au quotidien et la valeur de son patrimoine, donc dans la transmission. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce ralentissement tel qu'il est positionné, et M. Pincival a parfaitement raison, Olivier le disait, toutes ces règles empêchent la location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est que le marché, il n'y a pas assez de travaux de rénovation, et en même temps, ils n'avaient pas assez de biens sur le marché qui peuvent être loués. Donc toutes ces règles qui se sont croisées, qui étaient pour l'intérêt de tous, sont aujourd'hui en train de bloquer complètement le système économique et le système locatif. Donc, si vous bloquez le système locatif, vous bloquez le système de transaction, et vous bloquez le système des
administrateurs. C'est la locomotive.
C'est tout le système qui est bloqué, c'est toute la chaîne de valeur. Donc là, aujourd'hui, je dirais, faites de la rénovation. Derrière, il y a un accompagnement qui est fort. Je rappelle juste que la première des subventions, c'est la TVA. Quand on fait de la rénovation énergétique, c'est une TVA 5,5.
Parce que souvent la TVA,
Parce qu'on parle souvent de subventions publiques, c'est vrai que c'est important, mais déjà c'est la TVA 5,5.
Bien sûr,
déjà sur une copropriété, vous avez un accompagnement avec des subventions publiques et des subventions privées, avec des certificats d'économie d'énergie, qui fonctionnent très bien. Malgré ce qu'on peut entendre, ça marche très bien.
Tout le monde est unanime ici depuis hier. C'est vrai que j'entends que des retours positifs de ces C2E.
Oui, parce qu'il y a eu une période où ils avaient une contre-publicité, mais la réalité, c'est que tout s'est bien calmé, tout s'est bien cadré, et aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Et puis derrière, il y a des établissements financiers qui vont être de plus en plus nombreux, parce qu'aujourd'hui, ils sont deux. Mais à la rentrée, ils seront quasiment, quand je dis à la rentrée, c'est d'ici fin décembre, début janvier, 5 établissements bancaires qui vont accompagner la rénovation énergétique en faisant du prêt collectif. Vous avez du prêt au zéro, vous avez des subventions, vous avez de la TVA 5,5. Moi, j'ai dit, j'ai 30 ans, ça se voit pas sur moi, on a l'impression que j'ai 30 ans d'âge, mais non, j'ai 30 ans d'ancienneté. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que je n'ai jamais vu une fenêtre aussi belle et aussi claire.
Vous êtes d'accord avec Olivier Principal sur plutôt des mesures incitatives plutôt qu'obligatoires, je pense aux bailleurs privés.
C'est exactement ce qu'il disait. Aujourd'hui, il faut inciter les gens à aller. Vous savez, le principe franco-français, on est des latins. Et moi, je suis basque, donc j'ai que des qualités. Donc ça veut dire qu'on est un peu têtu. Derrière, ça veut dire que dans l'absolu, si vous m'obligez, j'y vais pas. Par contre, si vous m'incitez, je vais peut-être y réfléchir.
Donc plutôt la carotte au lieu du bâton.
Ouais, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne, mais dans notre vie personnelle aussi, donc je pense qu'il vaut mieux y aller comme ça.
Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que Christophe disait. Vous posez la question, Olivier, c'est vrai que donc vous disiez qu'après travaux de rénovation énergétique copropriété, il y avait une amélioration des factures. Il y a une étude qui est sortie, une grosse étude qui a été signée Crédit Mutuel et je ne sais plus quel organisme, il faudrait que je la retrouve, qui avait été réalisée sur des milliers de ménages, sur les comptes bancaires justement, et qui montrait factuellement qu'il n'y avait pas forcément une amélioration sur la facture pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était que il n'y avait pas de pédagogie derrière quant aux habitudes, faut baisser le chauffage, etc. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Qu'est-ce que vous constatez dans les copropriétés ? Non, mais c'est intéressant d'avoir de votre
point. Non, mais déjà, je vais vous donner une histoire perso. Avant la loi climat et résilience, j'ai changé ma chaudière. Elle avait 15 ans et puis j'ai mis une chaudière très haut rendement, super, vraiment la meilleure chaudière du monde. L'année d'après, j'ai eu 30% d'augmentation du prix du gaz. Donc les 30% d'économie d'énergie que j'ai fait avec mon générateur, je les ai perdus dans l'augmentation. Donc en réalité, s'il n'y a pas une politique publique de maintien...
Mais attendez, si vous n'aviez pas changé, ça aurait été encore plus cher.
Mais en réalité, quand des propriétaires se lancent dans un investissement, dans un investissement pour faire des économies, on s'attend à un minimum d'une stabilité générale pour pouvoir avoir un retour de ces fruits. Comment vous allez dire à des copropriétaires qui vont mettre 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions dans une rénovation énergétique, qui vont dépenser 45 000 euros, parfois en n'ayant aucune aide parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases, etc., pour avoir une économie, et derrière, il n'y a pas du tout de maîtrise du coût de l'énergie. Donc effectivement, on ne peut pas raisonner sur cette rénovation énergétique que par le coût ou par l'économie réalisée dans le coût du chauffage. En réalité, il y a bien une valorisation d'entretien du patrimoine. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas inventé la roue. Donc il faut l'accélérer en utilisant ces aides. Mais moi, je voulais revenir sur un point qui est important, parce que la politique de ce pays est le premier frein à la rénovation énergétique. C'est le premier frein à la rénovation énergétique.
Donc l'instabilité ou le fait qu'il n'y ait pas de politique du logement pérenne?
Non, mais l'instabilité et la volonté permanente de changer la règle en permanence. Pourquoi les C2E, ça fonctionne? Parce que les C2E, quand on en lance un, il a une durée de vie qui est connue à l'avance. Donc du coup, il peut y avoir une stabilité. Je vois que j'ai mon ami de la CAPEB qui secoue la tête, mais je vais vous dire pourquoi. La FNAIM a la chance d'être au Conseil national de l'habitat. Donc on voit passer les projets de texte quand ils arrivent. On donne un avis.
Hein. Vous êtes consulté?
On est consulté, mais on donne juste un avis. Et après, les pouvoirs publics en font ce qu'ils en veulent.
Voilà.
Vous allez voir l'exemple assez rigolo.
Souvent, ça tombe aux oubliettes.
Ouais. On a changé MaPrimeRénov', les pouvoirs publics ont changé MaPrimeRénov' 3 fois par an. Les agences locales énergie-climat ne savent même plus quoi dire aux personnes qui viennent renseigner. Plus personne n'y comprend rien. Donc en réalité, plus ils mettent les mains dans le mécanisme, et moins ça fonctionne. Donc à un moment donné, il faut arrêter de toucher au dispositif. On en a parlé hier sur ce plateau. Il faut de la visibilité, il faut de la durée, il faut une programmation pour qu'on puisse avancer. Je vous donne le dernier exemple. Le 4 septembre, on est convoqué en urgence pour une modification de projet de décret qui touche encore MaPrimeRénov'. Tout le Conseil national de l'habitat, dans sa très grande majorité, vote contre les modifications, puisque MaPrimeRénov' venait ne plus subventionner l'isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur. Ce qui est un non-sens absolu pour accompagner la politique de rénovation énergétique. Un non-sens. C'était le 4 septembre, on vote majoritairement contre. Le 8 septembre, un décret sort. Ils valident le texte tel qu'ils nous l'ont proposé, celui qu'on a rejeté, et le 9 septembre, le Premier ministre dégage. C'était comme si c'était un espèce de baroud d'honneur en disant « on va foutre une dernière merde avant de continuer ». Donc, en fait, ce qui nous pose problème, c'est que si on n'écoute pas la société civile, qui sont les acteurs du terrain, si on n'y met pas un peu de bon sens, mais on s'en sortira jamais. Donc, la rupture, elle doit arriver aujourd'hui. Alors, est-ce que le président de la République arrivera sur son dernier, sa dernière lancée à faire quelque chose qui permettra de prendre de la hauteur, j'en sais rien. En tout cas, la démonstration du changement du dernier gouvernement qui a duré 13 heures, lui, n'est pas le bon exemple, en tout cas pour ça. Il nous faut à un moment donné de la stabilité et puis remettre de la cohérence dans l'organisation de tout ça. Il faut laisser les professionnels gérer le sujet et arrêter de croire que l'État omnipotent est capable de tout faire.
Donc, écouter les personnes du terrain qui sont consultées.
Mais oui, mais est-ce que c'est nous qui sommes les artisans de la réalisation? Je veux dire, les assistants à maîtrise d'ouvrage, ils se sont structurés. Pourquoi? Parce que la visibilité des aides et des financements, c'était devenu n'importe quoi. Donc il y a eu des professionnalisations. Les professionnels de terrain, comme nos amis de la CAPEB, ils n'ont pas attendu des dispositifs gouvernementaux pour savoir comment on allait mettre une isolation sous un toit en zinc ou une couverture en tuiles. Nous, les syndics de copropriété, on n'a pas attendu qu'on nous dise comment faire pour aider les copropriétés à accompagner un dispositif. Donc à un moment donné, il faut laisser les gens faire et surtout ne pas changer les règles du jeu en permanence, qu'on ne l'a pas dit, mais la copropriété, c'est un temps long. Ouais. C'est un temps long. Hein, en moyenne, les dossiers, c'est 5 ans pour la réalisation, entre l'ingénierie et la réalisation. Donc si on change la règle du jeu en permanence, on crée une défiance. Les copropriétaires ne savent plus à quoi ils auront droit. Ils se disent de toute façon, et c'est ce qu'on a dans les assemblées de copro, de toute façon on décide de ça, mais demain ça va changer, donc c'est pas la peine de le faire. Et donc je vois pas comment on peut accompagner quelque chose si on ne met pas des signaux positifs. Et les signaux positifs, c'est écouter les remontées de terrain et adapter la réglementation en fonction des experts que nous sommes, et pas ce qu'il y a dans nos ministères cachés dans les bureaux qui écrivent des textes qui parfois sont décorrélés de la réalité.
Vous vouliez réagir, Jean-Claude, sur les C2E?
Oui, en tout cas, ce qu'il vient de dire, c'est le bon sens, pour résumer, le bon sens. Oui, les C2E, alors, bon, on va rentrer dans une sixième période, on a vu. Certes, il y a moins de modifications, mais il y en a une. On sait qu'au mois de juillet, il y a, concernant les pompes à chaleur aussi, il y a des agréments qu'il va falloir prouver que la pompe à chaleur est majoritairement produite en Europe.
Ah oui.
Donc voilà, donc il y a des petits changements quand même qui font que, c'est plus stable, ouais. mais les règles sont très compliqué aussi, puisque maintenant on est rentré.
Alors, la France.
Alors par contre, en C2E, oui, il y a des avancées assez significatives pour les ménages intermédiaires. Il y a quand même des bonus, je dirais, assez importants et qui peut contribuer à faire des travaux. Pour autant, vous l'avez dit, c'est compliqué. Et pour autant, effectivement, nous, les artisans, on est un peu perdus. Donc effectivement, je pense que il va falloir un peu créer des outils à disposition des artisans pour bien vendre cette rénovation énergétique. En tout cas, je suis ravi d'entendre de dire qu'on est des pourvoyeurs de la valeur des biens. C'est bien. Et non seulement, effectivement, avec nos travaux à l'intérieur des bâtiments, on valorise les biens, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on... Ça, c'est très important. On est sur de l'économie locale. On valorise l'économie locale. Et Dieu sait, aujourd'hui, est hyper important dans le bien-être de tous et le maintien de la France au niveau économique qui peut être aujourd'hui, même avec ces incertitudes politiques.
Alors, messieurs, pour conclure, parce que le temps file, j'aimerais que chacun me dise en une phrase, bon, elle peut être un peu grande, ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour accélérer justement cette rénovation énergétique, en tout cas pour aider les copropriétaires à franchir le cap, si c'est un choc de simplification, un choc de financement ou un choc, je sais pas, de formation, de communication. Je vous en prie, Christophe, on commence avec vous.
D'accord. Alors je vais essayer de faire une phrase courte qui n'est pas obligatoire.
Fais-toi plaisir.
Vous avez dit parfaitement le mot, c'est le choc. Alors le choc, il embarque plein de choses. Il est dans la simplification, il est dans la communication et il est dans l'accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit accompagner aussi bien les professionnels, d'abord pour leur donner le verbatim et les armes nécessaires pour pouvoir porter, j'irai au-devant de leurs clients, ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, la simplification, on ne va pas plus simplifier aujourd'hui. Ce que dit Olivier très justement, aujourd'hui, on a la connaissance des subventions, elles existent, il faut juste de la stabilité. Ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que quand je vais en Assemblée Générale pour voter ou quand je suis un particulier, je suis sûr que si je dépose un dossier, il va se passer quelque chose de positif. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut à tout prix porter cette partie-là de façon simple. Le financement aujourd'hui, pour revenir sur la copropriété, pendant longtemps, puisque j'ai eu la chance de travailler au Crédit Foncier pendant de nombreuses années, était le seul établissement qui faisait des prêts collectifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les établissements bancaires, dont certains qui arrivent sur la place, ils seront au nombre de 5, vont offrir la possibilité. Je prends juste un exemple. Il faudrait à peu près 7 milliards par an pour rénover, gérer les classifications de biens. La Caisse d'épargne Île-de-France, qui a repris les produits d'Homo Finance, qui sont les deux acteurs, à eux deux font 500 millions sur 7 milliards. Si vous voulez, il y a 6 milliards 5 qui sont financés par qui, je ne sais pas. Donc, et pas rien. Parce que du coup, ça ne se passe pas. Donc là, le fait d'avoir plus d'établissements bancaires, on va pouvoir déjà donner de la lisibilité. Parce que le premier frein aussi, dans la simplification, c'est que le prêt puisse être obtenu dans un délai court. Quand vous n'avez que deux établissements qui traitent la France entière, avec 20 personnes réunies, vous ne pouvez pas dire « je vais simplifier le système ». Il faut 200, 300 établissements bancaires, enfin pardon, commerciaux qui vont traiter les dossiers et pour pouvoir les gérer. Donc il faut simplifier, il faut un choc de communication et il faut des établissements bancaires qui vont accompagner les projets. Nous, chez Synergec, on travaille là-dessus. On a la chance d'être écoutés par le passé que nous avons et on travaille avec des banques qui demain vont sortir l'offre de prêt et ils vont permettre de gérer une accélération claire. Parce que avant de parler subvention, eh bien, aujourd'hui on est sur du reste à charge. Et le reste à charge, c'est automatiquement ce qui est dicté au copropriétaire, le fait de dire j'y vais ou j'y vais pas. Si ça me coûte 50 euros par mois, j'y vais. Si ça me coûte 300 euros par mois ou 10 000 euros, je vais commencer à tordre le nez. Donc vous voyez, toute l'approche, elle est ici. Donc elle est dans la nécessité d'avoir des armes, des outils et une visibilité.
Est-ce que vous voulez compléter ou...
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, reste à charge. Simplification, ça c'est une demande qu'on fait depuis longtemps, les professionnels du bâtiment. Accompagnement, ça c'est, oui, effectivement, ça l'est. Alors, certes, je voulais dire qu'il y a la rénovation énergétique, mais aussi il y a tout ce qui touche à rénovation. Il y a un autre chantier qui passe un peu inaperçu, mais pas que. c'est l'accessibilité des logements. On a un immense chantier à faire puisqu'on sait que la population va de plus en plus vieillissante. Il y a un besoin de laisser ces personnes, de rester, je dirais, dans leur logement, oui. Non pas les amener tous dans les EHPAD parce qu'on sait que ça ne sera pas possible. Donc je pense qu'on a des chantiers en chantier à mener. Donc les trois mots, je dirais, simplification, financement du reste à charge et accompagnement des professionnels pour qu'ils voient un peu plus clair dans toute cette... Je dirais cet amas d'aide. Voilà.
Olivier Principal, pour terminer, pour conclure.
Moi, je pense que la démonstration qu'on a aujourd'hui avec la présence de nos deux invités, c'est ce message de pragmatisme que tout le monde a et sur lequel il faut à un moment donné inverser la tendance. Ça n'est plus un État qui produit des textes et qui nous demande de les appliquer bêtement. C'est un État qui construit avec les opérateurs de terrain une politique pour qu'elle soit efficace dans le temps, dans l'intérêt des citoyens. C'est ça le sujet. Donc déjà, ça veut dire changer de pragmatisme et de façon de travailler au niveau de l'État et laisser aussi le terrain faire. Donc on en a parlé, il faut une visibilité sur les textes, il faut un plan politique de durée, hein, dans lequel on fait une évaluation et dans lequel on y met des moyens. La loi climat et résilience qui est sortie en 2018 avec des obligations...
2021.
2021, avec des obligations en 2023, j'étais en train de refaire mon calcul, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens dans la création. Il n'y avait pas d'études d'impact. C'est-à-dire que même les pouvoirs publics n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils sont astreints. Donc en réalité, dès le départ, le sujet était biaisé. Donc, puisqu'on est tous... impliqués dans cette rénovation énergétique, que ça soit les entreprises du bâtiment, les opérateurs de terrain, aujourd'hui les financeurs, on arrive enfin à les faire tenir, parce que s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'opération de rénovation énergétique, et le retard qui a été pris sur cette opération, merci aux opérateurs comme Synergiec d'être intervenus, à un moment donné, si on n'a pas de financement, on n'arrivera jamais à initier quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout le schéma de la faiblesse politique qu'on a eue, c'est que cette loi climat qui donnait une orientation, elle est venue mettre les mains dans un calendrier qui n'était même pas tenable au démarrage parce qu'on n'avait pas créé les outils. Donc aujourd'hui, on connaît les faiblesses, donc c'est assez facile de se dire comment les rectifier. Et une fois qu'on a orienté ça, on prévoit un plan, on l'évalue et on laisse les professionnels de terrain avancer comme il se doit pour permettre cette accélération. On y arrivera, parce que de toute façon, en France, on sait y arriver. Quand on a un challenge, on y arrive. Mais à un moment donné, il faut des challenges qui soient acceptables, il faut qu'on soit entendu, et il faut que et les opérateurs publics qui, au quotidien, manœuvrent les subventions aient de la visibilité. Il faut juste que les professionnels de terrain aient de la visibilité pour accompagner les clients, qu'on laisse la pédagogie, qu'on laisse les choses arriver, et qu'on arrête les réglementations restrictives, les interdictions, les exclusions. Voilà, c'est une politique qui doit embarquer tout le monde. Parce que dans une copropriété, on a tout un tas de gens différents. Il y a des bailleurs, il y a des propriétaires occupants, il y a des locaux commerciaux, il y a des locaux professionnels, et personne n'est soumis à la même réglementation. Il faut embarquer tout le monde, et on réussira ce challenge de la rénovation énergétique, mais maintenant, il faut laisser les moyens, il ne s'agit pas de moyens financiers, il faut laisser les moyens techniques se mettre en place pour y arriver. Et si le pouvoir politique ne comprend pas ça, je crois que c'est pas la peine, hein. Je crois qu'il faut tirer un trait sur le sujet et passer à autre chose. Mais ici, ce sont que des gens qui sont positifs dans cette rénovation et nous, on continuera à avancer, en tout cas, dans cette démarche.
On terminera avec ce message positif. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges denses, francs et concrets. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct de cette seconde journée au Forum Rénodaise à la porte de Versailles sur nos antennes. À tout de suite.
Rénodaise, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.